Alors bonsoir, on est bien sur Fréquence 7.
Et bonsoir.
Et ce soir, vous allez voyager, hein, parce qu'en fait, on se retrouve, Richard, invité à Fréquence 7 ce soir. Moi, je ne me rendais pas compte à quel point tu avais voyagé et tu vas voyager encore, puisque tu vas partir dans quelques jours pour... l'Amérique du Sud, que tu connais bien, parce que hein, tu es quand même allé un paquet de fois.
Oui, alors je ne sais pas si on connaît bien un jour.
Mais,
alors, ce que je peux dire, c'est que bon, j'ai principalement voyagé pour faire vivre mon internationalisme. C'est-à-dire que une grande majorité des voyages que j'ai pu faire, donc c'était dans des cadres militants, dans des cadres pour défendre des causes et se solidariser donc avec des luttes. Voilà.
Oui, donc oui, tu es solidaire d'abord ce soir parce que évidemment c'est le voyage en Amérique du Sud, mais aussi parce que tu expliques que c'est pour faire vivre ton internationalisme. Alors là, tu vas y aller parce que qu'est-ce qui est organisé tu y vas un mois là, mais le truc il est dans quelques jours, dans quelques temps.
Non, moi je vais participer donc fin novembre. Donc, à la 10e rencontre internationale de l'économie des travailleurs et des travailleuses, donc, qui va se dérouler donc, à La Rioja. Donc, c'est une petite ville dans le centre-ouest de l'Argentine, hein, pas très loin de la cordillère des Andes. Et donc la particularité de cette province, c'est qu'il y a pas mal d'entreprises qui ont été récupérées par les travailleurs. Bon, il y en a un peu dans toute l'Argentine. Mais donc ce réseau, il organise tous les 2 ans donc, des rencontres internationales, donc mondiales.
Donc dans un cadre d'autogestion aussi
Alors en fait, oui. C'est-à-dire l'économie des travailleurs, c'est basé sur les expériences d'autogestion, de récupération d'outils de travail et gestion ouvrière, gestion démocratique. Et donc ça comprend des coopératives, mais pas n'importe quelle coopérative. Il faut qu'elles aient des principes autogestionnaires qui reposent, mais surtout qui s'inscrivent dans un processus de récupération de l'outil de travail, c'est-à-dire souvent donc ce sont des luttes, des occupations qui peuvent être de plusieurs mois, hein, un peu à l'image de ce qui s'est passé donc à Fralib entre 2011 et 2014, hein, et donc c'est le même processus, hein, et à un moment donné donc il y a reprise de la production. Et donc, avec une gestion ouvrière. Et donc, dans ce réseau, on trouve à la fois donc, des milieux universitaires, parce que dans le cadre de l'Université de Buenos Aires, il y a un programme qui s'appelle Facultad Abierta, qui est faculté ouverte, qui a été créé en 2003 pour suivre un peu ces expériences. Et à partir de 2007, donc, il y a eu des rencontres internationales. Donc, c'était la première en 2007 et en 2025, donc la 10e.
D'accord. Et alors, tu parlais de Fralib. Il y a plein de nos auditeurs qui ne sauront pas vraiment de quoi tu parles. Est-ce que tu peux un tout petit peu préciser?
Ben alors, Fralib, c'était une usine à Gémenos, hein, tout près d'Aubagne, de Marseille, donc, qui appartenait donc, à la multinationale Unilever. Et qui avait décidé en 2011 donc de délocaliser la production, c'est-à-dire fermer l'entreprise, fermer l'usine, hein, de Gémenos et démonter les chaînes de montage et les transférer donc en Pologne pour réduire les coûts. Donc ça s'inscrivait un peu dans le cadre après la crise financière de 2008, donc, qui en Europe a commencé à faire subir ses effets, donc principalement en 2010. Et à l'époque, en France, il y a eu pas mal de luttes pour récupérer l'outil de travail. Et donc, à Fralib, ils ont occupé l'usine pendant 1334 jours, d'où le nom de la marque aujourd'hui, de la coopérative qui s'appelle aujourd'hui Scopti, hein, qui continue à conditionner du thé, entre autres, hein, mais conditionner donc des herbes. Et donc, ce Fralib, d'ailleurs, pendant l'occupation, on avait organisé donc en 2014 la première rencontre euro-méditerranéenne de l'économie des travailleurs. C'est-à-dire que j'évoquais tout à l'heure le réseau mondial qui est né donc en Argentine. Et à partir de 2013, il y a eu une volonté de s'élargir. Et donc, on a donc constitué donc un réseau euro-méditerranéen. On considère que nous, l'Europe, c'est aussi le bassin méditerranéen. Et donc, pour qu'il y ait aussi donc ces partages d'expériences, ces confrontations ces confrontations entre à la fois donc des réseaux universitaires et puis les travailleurs.
Et donc, alors, tout ça, ça s'inscrit en fait, et ton voyage dans quelques jours. Et ce dont tu parlais de Fralib, là, tout ça, ça s'inscrit dans un cursus très long, en fait, parce que tu disais, tu as commencé à y aller il y a 40 ans, en Amérique du Sud.
Mon premier voyage en Amérique latine, c'était dans le cadre d'une brigade internationale de solidarité. Alors, brigade internationale, ça évoque un peu juin 36, juillet 36 plutôt, en Espagne. Mais donc, ça s'appelait comme ça. Hein, donc, En 1979, il y a eu la révolution sandiniste au Nicaragua. Et au bout de 2 ans, à peu près, à partir de 81, il a été décidé d'envoyer donc des volontaires dans des brigades pour soutenir, pour se solidariser donc avec cette révolution sandiniste qui entendait donc changer le sort des populations donc de ce pays. Et donc, il y avait tout un mouvement international. Et donc, ça a été mon premier séjour en Amérique latine, avec une immersion totale, puisqu'on était dans les petits villages, et chacun était hébergé dans une famille.
D'accord. Et là, tu disais, tu es resté 3 mois, hein, c'est ça ?
Oui, oui.
Donc, justement, parallèlement à ça, tu as appris l'espagnol, parce que voilà,
mon apprentissage de l'espagnol s'est fait à partir de là, oui, effectivement. Ouais. Lors de la première brigade, bon, je m'exprimais un peu, mais pas très bien, mais après, il y a eu des raisons personnelles qui ont fait que je me suis perfectionné dans cette langue.
D'accord. Ouais. Et bon, c'est énorme quand même, parce que tu parlais de Porto Alegre aussi. T'es allé, très souvent, enfin souvent. J'ai remarqué que moi je te dis Amérique du Sud et toi tu dis Amérique latine.
Oui, alors bon, c'est le vieux débat. Hein. Ouais. C'est le vieux débat parce que certains parlent d'Amérique latine, donc qui inclut donc effectivement l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale et une partie des Caraïbes qui sont celles qui ont utilisé la langue latine, parce que dans les Caraïbes il y a aussi des îles où on parle anglais. Ouais. Et bien, cette qualification de latine, ça renvoie aussi à la colonisation, c'est-à-dire que donc j'avais participé à un petit bouquin donc qui était coordonné par Franck Godichaud, qui est un professeur d'université spécialisé donc de l'Amérique du Sud. Et donc, on parlait d'Amérique afro-indo-latine. Ouais. Ça renvoyait donc aux origines diverses, en fait, sur ce continent.
Du peuplement.
Ce continent,
ouais. Ouais. Oui, et donc, oui, Porto Alegre aussi, tu peux en dire un mot, peut-être, parce que...
Oui, alors, donc, il y avait donc eu cette brigade au Nicaragua, et à partir de... Mais après, je suis resté assez longtemps sans retourner, donc, en Amérique du Sud, et donc, à l'occasion du début du mouvement altermondialiste, donc, le lancement des forums sociaux... donc mondiaux, européens, enfin, mais je suis notamment allé donc à Porto Alegre 3 fois, voilà, je suis allé à Caracas, dans plein de villes, et puis j'ai fait aussi un travail politique aussi, c'est-à-dire à l'époque, au moment de, dans les années 2000, où il y a eu des changements politiques donc au Brésil, au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, en Argentine, dans le cadre de mes activités au sein d'une commission internationale, bon, j'étais aux alternatives, la commission internationale, je coordonnais donc le travail sur l'Amérique du Sud et centrale, Et là, donc, effectivement, je suis allé parfois faire des voyages militants, c'est-à-dire rencontrer en fait des acteurs de ce changement, pas seulement politiques, mais syndicaux, associatifs, des mouvements de femmes, des mouvements indigènes et autres. Donc, du coup, j'ai visité plusieurs pays.
Donc, tu es allé aussi au Venezuela, Colombie, tout ça, tu...
Venezuela, je suis allé 3 fois. Oui.
Ouais, Colombie?
Non, je ne suis pas allé en
Non,
Colombie.
t'es pas... Et donc, alors, tu es allé dans quel pays, alors?
Donc Venezuela, Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Bolivie, Équateur
Ah, ouais.
et Pérou.
D'accord. Et Pérou? Ouais. Et oui, donc. Alors, qu'est-ce que tu en retiens de ce, je sais pas, de ce dépaysement? Parce que, est-ce qu'on est vraiment dépaysé? On est dépaysé quand on est là-bas.
Ah bah oui, bon déjà, oui, il y a un dépaysement assez important, avec des différences selon les pays. Hein. C'est-à-dire
Ouais.
que bon, par exemple au Brésil, donc il y a des populations afro qui ont quand même une certaine importance, notamment dans les surreprésentées dans les couches populaires, bien évidemment. Hein,
Ouais.
mais il y a aussi donc effectivement les Indiens, donc dans tout le monde andin, on va dire, là, donc la Bolivie, c'est très marquant. Et par exemple, l'élection d'Evo Morales donc en Bolivie en 2006 a été un élément très important, parce que c'était la première fois qu'on avait un président indigène, en fait, en Bolivie. Hein. Il y en avait eu dans d'autres pays, mais qui n'étaient pas restés longtemps.
Et oui, et donc oui, rencontre des Indiens. Oui, t'as eu des, je sais pas, t'es allé dans des territoires où t'as eu l'impression justement que les Indiens étaient encore là, très présents.
Ah bah,
Ouais.
les cultures indiennes sont très très très
Ouais.
importantes en Bolivie, au Pérou, en Équateur, Colombie et en Argentine et Chili, ce sont d'autres populations
Oui.
indigènes. Mais
Ah oui.
alors j'ai utilisé le terme indigène parce qu'en espagnol c'est pas du tout connoté. Je sais qu'en français aussi, quand on utilise ce terme, ça fait sursauter, ça renvoie
Ouais.
effectivement à la colonisation, mais si on fait une traduction littérale de l'espagnol au français, on peut l'utiliser. Mais bon, il y a effectivement des populations, par exemple la Bolivie, le poids des ethnies donc d'origine indienne, elles sont très importantes, plus de la moitié de la population, donc.
Et au niveau politique, alors, qu'est-ce que tu en retiens de
Alors,
parce que là, enfin bon, on va pas faire ça en 2 minutes, hein, mais bon.
oui, bah là, oui, parce que c'est marrant, je souris parce que la question elle renvoie pratiquement à ce qu'on appelait la doctrine Monroe, du nom d'un président des États-Unis, donc 1823. La doctrine Monroe, c'était donc effectivement le grand Satan qui faisait la loi donc dans toutes les Amériques. Et on a un peu le retour de ce processus avec Trump. C'est-à-dire que, bon, effectivement, l'histoire des pays d'Amérique du Sud a été jonchée de coups d'État, de dictatures, de déstabilisation par les États-Unis,
Ouais.
hein, en permanence. Hein,
C'est
c'est-à-dire
leur chasse gardée, en fait.
que, ouais, 1823 jusqu'au début des années 2000, bon, il n'y avait pratiquement jamais eu enfin, très peu d'expériences de gauche. Et quand il y en a eu, comme au Chili, elles ont été renversées avec le soutien de la CIA. Et donc, et enfin, là, avec le mouvement altermondialiste, mais ça a coïncidé, en fait, hein. Début des années 2000, il y a commencé à y avoir donc des changements dans un certain nombre de pays qui avaient été des changements progressistes, on va dire. Bon. Il faudra du temps pour faire les débats et tout ça. Il y a eu quelques désillusions sur ces expériences, mais pour autant, il y avait effectivement un retour un peu d'une certaine souveraineté populaire dans la gestion de ces pays. J'évoquais donc Evo Morales, ça a été un symbole. Hein. Bon, après son évolution ces dernières années, on pourrait en débattre. Mais ça a été très très marquant, effectivement, que les peuples premiers originels, on va dire, de ces territoires ont accédé au pouvoir et ont pu engager un certain nombre de changements, et notamment des droits. Si on parle, par exemple, en Bolivie, d'une commande république plurinationale. C'est-à-dire on reconnaît les 36 ethnies originelles différentes. Voilà.
Ouais. D'accord. Là, le retour du grand Satan dans la mer des Caraïbes en ce moment. Enfin, bon, comment il appelle ça, océan comment il dit ça, océan américain. Comment il appelle ça, lui?
Enfin, il a débaptisé le golfe du Mexique.
C'est ça.
Effectivement, je parlais de Trump puisque c'est effectivement le retour un peu de l'ingérence états-unienne sur l'ensemble des pays du continent. Et y compris, il s'attaque aussi, peu de temps après sa prise de pouvoir, sa prise de fonction, il a parlé d'annexion du Canada. Ça ne concerne pas uniquement les pays hispanisants ou autres, ou les pays d'Amérique centrale ou du Sud. Et donc, effectivement, de l'ingérence, mais là, par exemple, sous couvert de soi-disant lutte contre le narcotrafic, donc il y a eu effectivement des menaces très fortes qui ont été adressées donc à Gustavo Petro, qui est le président de la Colombie, qui est le premier président de gauche en Colombie depuis 1948, sachant qu'en 1948, il avait été renversé, le président qui avait été élu. Et donc là, il y a des menaces très fortes. Heureusement, donc, Gustavo Petro a répondu, mais bon, ces menaces, elles sont fortes. Et il y a des menaces également donc, vis-à-vis du Venezuela, donc, d'où sortiraient l'essentiel la livraison donc de drogues donc à destination du marché états-unien, parce que c'est le principal consommateur, c'est ça aussi. Donc il faudrait peut-être s'attaquer aux sources. Soi-disant, en s'attaquant aux sources, on ne prend pas les choses vraiment tout à fait dans le bon sens. Et donc, effectivement, la Colombie, on la déstabilise. Bon, bientôt, ce sera effectivement donc la Bolivie, même si en Bolivie, comme il y a eu un changement de pouvoir, c'est la droite qui est revenue au pouvoir. Bon, ça sera peut-être moins fort, mais on s'attaque donc aux pays donc producteurs, producteur, mais on s'attaque pas aux effets de la consommation et à la consommation sur le marché états-unien, en fait.
Alors, tu peux nous parler peut-être un petit peu de ce qui s'est passé en Argentine par rapport à Milei. Là, il y a eu des élections récemment, et alors on a entendu plein de gens qui se gargarisaient. Oh, Milei, il a tout écrasé, 40%, il a tout gagné.
Il y a eu des élections générales en demi-mandat, le 26 octobre dernier. L'élection de demi-mandat, il s'agissait en fait de remplacer la moitié des députés et un tiers des sénateurs. Bon, il faut savoir que Milei, avec sa coalition La Libertad Avanza, La Liberté Avance, il n'existe pas depuis très longtemps, et donc il n'avait pas beaucoup d'élus. Ils avaient eu quelques élus il y a 2 ans, mais pas beaucoup. Et donc là, effectivement, Milei, la coalition, a gagné ces élections, mais ça n'a pas été un grand succès, puisque ils ont obtenu 40,7%. Des suffrages, mais ça inclut cette coalition, elle inclut quand même une partie de la droite classique, enfin traditionnelle, argentine, et notamment donc le PRO, qui est le parti de Macri, qui est l'ancien maire de Buenos Aires. Et donc là il y a effectivement Milei, il a gagné donc le plus grand nombre de députés et de sénateurs. Pour autant, il n'a pas la majorité absolue donc au sein des deux chambres, que sont donc le Palais des Congrès, donc les députés, et le Sénat. Il reste minoritaire. Donc, par exemple, dans ces deux
chambres,
dans les deux chambres, c'est les péronistes centre-gauche qui restent majoritaires.
D'accord.
Mais donc, il va devoir négocier.
Composer,
continuer à négocier, donc même s'il utilise des méthodes un peu des menaces et tout ça, vis-à-vis aussi de, parce que on est dans un État fédéral avec 24 provinces. C'est un peu comme la constitution des États-Unis. Et donc, l'État menace certaines provinces s'ils ne votent pas dans le bon sens en leur réduisant les crédits. Et c'est ce qui s'est passé donc, au cours des deux premières années de mandat de Javier Milei.
Non, c'est pas la même chose chez nous, mais enfin, on sait que les maires, ils ont intérêt à être du bon côté. Hein, Bokeh, par exemple, pour Ronald. Enfin bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Voilà. Alors, je ne sais pas, là, pour l'Argentine, on n'a pas fini de faire le tour, mais on avait plusieurs sujets dont on voulait un petit peu parler. Le Sahara occidental, par exemple, ce qui est en train de se passer, là, avec le fait que l'ONU vient de faire un vote, hein, le Conseil de sécurité hein, de l'ONU. Qui a fait un vote. Et le terrain est préparé. Ça fait, Trump avait commencé à reconnaître des avantages au Maroc à partir du moment où le Maroc s'était montré bon élève et avait pacifié ses relations avec Israël en 2020. Donc Trump était favorable au Maroc et tout ça. Et donc là, d'un seul coup, on sent que la France, l'Espagne, tout ça, ça bascule un peu...
Oui, alors ce qu'on peut dire, bon déjà, le Sahara occidental, c'est la dernière colonie de l'Afrique. Moi, j'insiste toujours sur cet aspect-là, parce que c'est quand même un continent où il y a eu énormément de colonies. Et donc, effectivement, depuis la Marche verte, donc le Maroc occupe depuis 50 ans, une partie du territoire du Sahara occidental. Et donc, les populations sont réfugiées donc, dans des camps en Mauritanie et en Algérie.
Marche verte, excuse-moi de t'interrompre, comme tu parles de la Marche verte, il y a plein de gens peut-être qui ne savent pas bien ce que c'est. C'est le roi précédent, Hassan II, qui avait incité sa population à aller franchir la frontière.
Hein, oui, c'était une annexion. Comme il y a des annexions en Cisjordanie et autres aujourd'hui. Et donc, pour revenir au rôle de l'ONU, l'ONU, donc, normalement, il y avait une résolution comme quoi le Maroc devait organiser donc, un référendum hein, par rapport à à l'avenir donc du front du Sahara occidental. Et effectivement donc il y a eu une offensive ces dernières années, bon tu l'as évoqué, donc avec les évolutions du Maroc vis-à-vis d'Israël. Et donc effectivement les États-Unis donc ont proposé, donc c'était vendredi dernier, hein, 31 octobre, donc un vote au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, donc ce conseil devait renouveler donc un mandat, notamment par rapport à l'organisation de l'élection. Et donc ils ont profité de ce vote pour reprendre en fait le plan qui était proposé par le Maroc. Il faut savoir que ça a été présenté par les États-Unis et fortement soutenu par la France. Et ça, c'est aussi un tournant. Il faut savoir que se rappeler que Macron donc, est allé donc, au Maroc, je pense que c'était en début d'année ou l'année dernière, et donc et avait fait de grandes déclarations comme quoi il reconnaissait donc, effectivement le droit à l'ingérence du Maroc sur le territoire du Sahara occidental, ce qui était un tournant quand même dans la diplomatie française. Et donc, effectivement, s'il y a une consultation de la population, ça se fera sur la base qui est proposée par le plan de Rabat et qui est totalement différent, puisque il s'agira plus, on parle plus donc d'indépendance du Sahara occidental. Et ça peut paraître dérisoire, mais c'est quand même très très important, parce qu'il y a des populations quand même qui sont quand même dans des camps depuis 50 ans. Ça rappelle, ça rappelle un peu ce qui se passe donc en Palestine.
Alors à Gaza, on n'aura pas le temps de beaucoup aller dessus parce qu'il nous reste 2 minutes. À Gaza, on peut seulement dire qu'il y a toujours un permis de tuer, hein, le permis de tuer est toujours là. Le plan Trump n'a rien changé. Et on voulait parler un tout petit peu de la Nouvelle-Calédonie aussi, parce que là, on sent le forcing de l'ONU, entre autres, pour essayer de continuer ce qu'il il a commencé, c'est-à-dire de casser, en fait, la possibilité de l'autonomie.
Et oui, donc la France, je dirais, sous empire aujourd'hui, parce que mais donc ils conservent donc des colonies donc sur différents continents, donc est à l'offensive. Bon, il y a eu effectivement donc suite au soulèvement qui avait donné lieu donc à une mobilisation extrêmement forte de la population kanak, donc suite donc à l'organisation des référendums et autres. Et donc il y a eu les accords de Bougival, il y avait eu aussi l'emprisonnement donc
oui.
et la déportation, hein, déportation des dirigeants de la CCAT, donc cellule de coordination des actions de terrain donc du FLNKS, enfin des Kanaks. Et donc ces leaders donc ont été emprisonnés en France. Là, ils ont été libérés.
C'est, ouais.
Et tous, hein, il y a un meeting à Paris donc jeudi prochain, donc 6 novembre, avec donc ces leaders. Et ils vont enfin pouvoir rentrer dans leur pays.
Oui, parce que
j'insiste bien sur leur pays.
Ils étaient libérés, mais ils n'avaient pas le droit de quitter le territoire de la métropole. Hein.
Tout à fait, oui, c'est ça. Et donc en fait, bon, le FLNKS et donc un certain nombre d'organisations. Hein, sociales, syndicales et autres, refusent donc l'accord, le pseudo-accord de Bougival. Et d'ailleurs, on voit aussi les langues se délient, puisqu'on a vu donc les déclarations de l'ancien ministre de l'Outre-mer, donc Manuel Valls, dire qu'effectivement, ce qui avait été soumis à la signature suite aux accords de Bougival, ce n'était pas un accord définitif. Et donc on voit les contradictions donc de la République française vis-à-vis de ce territoire.
Alors je suis désolé d'avoir un tout petit peu été trop long. Là on a dépassé. Juste sur le budget, catastrophe, c'est toujours du néolibéralisme à fond la caisse.
Hein. Oui, alors je dirais que ce projet de budget s'inscrit dans le prolongement de 40 ans de politique néolibérale. Hein, avec un discours qui tend à remettre en question le système de redistribution sociale, donc qui tend à réduire les prestations sociales, et surtout un discours totalement idéologique qui consiste à refuser d'augmenter les impôts, alors qu'on voit qu'il y a une concentration de la richesse. Hein, on est passé de 8% du PIB détenu par 500 familles à 43% en 30 ans.
Allez, à bientôt, on a été trop long. Excusez-nous.
Au revoir.
Au revoir.